Les mouvements populaires de cette région, qui comportent un grand nombre de petits agriculteurs, se sont organisés et ont élaboré une proposition d'utilisation rationnelle de la forêt. Ce projet a été bien reçu par l'organisme officiel de réforme agraire et le ministère de l'Environnement et a donné lieu à la fin de l'année dernière à un décret installant 600 familles sur 45 de ces parcelles, l'État s'engageant à les reprendre puisqu'elles sont siennes. Et alors, à partir de là, un bras de fer s'est pratiquement concrétisé de manière violente entre ceux qui prétendaient rester les maîtres de cette région, parce qu'ils en contrôlent tout, et ces groupes de paysans qui sont la majorité de la population et qui avaient l'appui de du gouvernement fédéral. Mais un appui beaucoup trop mou, semble-t-il, puisqu'il n'a pas pu faire face aux tentatives d'empêcher la mise en œuvre de ce projet de développement. Donc les menaces qu'avait reçues le sœur Dorothy émanaient très clairement de ces gros propriétaires, entre guillemets propriétaires, puisqu'on les appelle ici des grileiros, c'est-à-dire des usurpateurs de terres.
Ces grands propriétaires ne reculent pas devant la manière forte. La commission pastorale de la terre vient de publier une liste de 140 personnes qui sont menacées à travers tout le Brésil de subir le même sort que sœur Dorothy. Votre tête aussi a été mise à prix sur cette liste.
Comme je travaille dans le combat contre l'esclavage au Brésil, nous sommes amenés, en tant que commission pastorale de la terre, de manière répétée, presque chaque jour, à recevoir des fugitifs de grandes fermes qui viennent nous raconter l'état pitoyable dans lequel ils sont tenus, obligés à travailler sans recevoir le moindre sou, traités pire que des bêtes et jetés à la rue quand ils ne servent plus. Ce sont des esclaves, en vérité. Comme nous portons ces dénonciations auprès des autorités, exigeons qu'elles entraînent des opérations d'inspection du travail au cours desquelles sont libérés ces esclaves. On en a libéré 5 000 simplement au cours de l'année 2003. Bien sûr que nous ne sommes pas tenus en estime par ces grands propriétaires et certains d'entre eux nous le font savoir.
Mais le gouvernement avait dit qu'il ne reculerait pas d'un pouce et pourtant, le 4 février dernier, il a encore cédé aux exploitants de bois du Pará. Est-ce qu'il y a une voie possible de sortie ?
La situation est difficile parce que le gouvernement invoque l'insuffisance de sa marge de manœuvre, le fait qu'il n'ait pas une base parlementaire suffisante, qu'on a conquis la présidence de la République, mais on n'a pas conquis le reste, ce qui n'est pas faux. Cependant, on voit bien que tout n'est pas fait pour affirmer une politique qui soit réellement de cet intérêt national, de cet intérêt majoritaire. On a eu, depuis 1985, 1250 morts dans des conflits de terre, dont 40% dans l'état du Pará. Et on a eu une impunité sans cesse reconduite. Des presque 500 personnes qui auraient pu être poursuivies pour complicité de pratiques de travail esclave depuis 10 ans, simplement peut-être 50 l'ont été, et même pas 5 ont été condamnés. Et depuis 10 ans traîne au Congrès une proposition d'amendement constitutionnel prévoyant la confiscation des terres de ceux qui pratiquent l'esclavage. Ils n'ont jamais réussi à la voter. Et le gouvernement n'a presque rien fait cette année pour qu'elle soit votée. Le gouvernement annonce ces jours-ci qu'il ne va pas reculer d'un pouce. J'espère que si, mais on voudrait non seulement qu'il ne recule pas, mais qu'il avance.
Et vous, qu'est-ce qui fait que vous ne baissez pas les bras ? Vous risquez votre vie ? Vous n'avez jamais eu la tentation de lâcher ?
J'ai pas le sentiment de risquer ma vie davantage que tous les paysans qui m'entourent. C'est simplement que nous croyons à la même cause et nous établissons fermement sur la base d'une foi qui est le contraire de la peur.